Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
bah, mais, tu savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton alcoolémie et ton péché. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez tout.
Canu info du vendredi. Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du Canu Info. On commence par faire un petit tour du fil d'actu. On commencera par le local avec l'interview d'un salarié de Rhône Insertion Environnement.
Et ensuite, on finira au national, pas si national que ça, pour parler de l'envahissement, mais finalement plutôt de l'invasion de la SNCF Réseau.
On continuera en parlant du don du sang et de la question de la PMA et les différences de traitement qui sont réservées aux homosexuels.
Et on parlera aussi de l'attaque du quartier de la Plaine à Marseille.
Puis on vous parlera du don du sang, de la différence de traitement pour les homosexuels et de PMA.
On parlera ensuite de migration et de, notamment de la violente expulsion du squat chez Jésus.
On continuera autour des horreurs de la répression de la migration avec la marine marocaine qui a tiré une seconde fois sur une embarcation en Méditerranée.
Et migration et horreur toujours, à Mayotte, les bureaux de la Préf sont fermés pour les étrangers et étrangères depuis plus de 6 mois.
On enchaînera avec une rubrique un peu spécialisée, enfin dans laquelle on est un peu spécialisé dans le Canu Info du vendredi, la question du gaz de schiste, cette fois-ci en Angleterre.
Et ensuite, on vous parlera de humbug.
Ou plutôt d'immobilisation contre les mines de charbon à Ambar. Et on finira bien sûr par le traditionnel agenda.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhônais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Reportage sur la grève qu'on a vu à les intergences.
Comment la maison est
en
train
de Canu Info du vendredi.
Rubrique locale. Et voilà, de retour dans les studios, et du coup on a de la chance ce soir d'être avec Benjamin qui est salarié de Rhône Insertion Environnement, je ne vais pas y arriver. Et du coup tout ça on l'a invité, pourquoi? Parce que ce mardi, alors que plus de 8000 personnes défilaient dans les rues contre les politiques capitalistes destructrices de Macron et de son gouvernement, en même temps Rhône Insertion Environnement se rassemblait devant le tribunal de grande instance de Lyon pour protester contre le redressement judiciaire de cette association. Alors Benjamin, est-ce que tu veux nous présenter cette association?
Bonsoir, donc cette association c'est une association qui existe depuis 2000,
qui a été créée par le département du Rhône à l'époque et qui permettait de réinsérer des gens assez loin de l'emploi par le biais de chantiers d'entretien d'espaces naturels, d'entretien de chemins, de forêts, de rivières, qui avait la particularité par rapport à d'autres associations qui font de l'insertion, d'embaucher de manière assez large, c'est-à-dire qu'en gros, pour caricaturer, une personne qui tenait debout, on l'embauchait, quoi. Ce qui n'est pas le cas des autres ateliers chantiers d'insertion, c'est notre statut atelier chantiers d'insertion, on sont obligés de faire un petit peu une sélection à l'entrée. Donc du coup, il y a des gens qui venaient bosser chez nous qui pouvaient pas aller bosser ailleurs. Historiquement, ça a fonctionné comme ça pendant pas mal d'années. On travaillait pour les collectivités, c'est-à-dire essentiellement les communes, qui payaient un prix très modique pour faire appel à nous et qui nous envoyaient sur les chantiers d'entretien d'espaces naturels.
Et alors, tu dis tout ça au passé, pourquoi ?
Alors, c'est en train un petit peu de changer parce que donc, la création de la métropole a changé un peu la donne, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un financeur unique, ça s'est passé à deux financeurs qui avaient des façons de voir les choses un petit peu différentes. Ça a commencé en 2015, mais il y a une période de transition où il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puis la métropole a dit, voilà, nous on va faire plutôt un marché public d'insertion, on va baisser les subventions et puis on va faire un marché d'insertion. Et elle a joué le jeu, c'est-à-dire qu'elle était intéressée par le travail qu'on faisait à la fois sur l'insertion et sur l'entretien de l'environnement. Et du coup, elle nous a fait un marché public qui fait qu'on s'y retrouve, c'est-à-dire que les prix qu'ils payent à la journée sont nos prix de revient, donc ça peut très bien fonctionner comme ça. Et par contre, le département, lui, a aussi baissé les subventions, mais sans compenser derrière le prix qu'on payait à la journée. Et en plus, nous, comme il y avait moins de subventions, on a dû faire payer les collectivités un peu plus cher que ce qu'ils payaient. Et le département a dit, voilà, pour les petites communes rurales, vous ne les ferez pas payer plus de 300 euros. Or, notre prix de revient journée, c'est autour de 600 euros. Donc, ça peut s'entendre parce que les petites communes n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Sauf que eux, le département n'a pas voulu compenser le manque à gagner sur ces journées-là. Donc, du coup... depuis un an et demi, on travaille à perte sur ces journées-là. Et voilà, à un moment, ça a commencé à coincer au niveau financier. Et du coup, depuis le mois d'août, on est en redressement judiciaire parce qu'il n'y a presque plus d'argent dans les caisses. Voilà.
Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi ? J'ai l'impression que vous offrez du coup cette possibilité pour quiconque peut travailler ou a envie de travailler avec vous, des contrats de travail qui permettent du coup soit de travailler dans les espaces publics, peut-être faire de l'élagage ou ce genre de choses. Et du coup, c'est aussi un service que vous proposez, de ce que je comprends, aux communes rurales, en tout cas des alentours, mais aussi au Grand Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce redressement judiciaire et ces pertes financière actuellement ?
Alors, le redressement judiciaire, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver un équilibre financier, on va disparaître. Si on veut trouver un équilibre financier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vende nos prestations au prix de revient. Du coup, les communes qui payaient avant pas grand-chose, elles vont être plus exigeantes. Du coup, nous, on va répercuter ça sur... Il va falloir qu'on soit... on fasse plus productif, on va dire. Et du coup, pour être plus productif, on ne va pas avoir d'autre choix que être plus sélectif sur le public qu'on va accueillir. C'est-à-dire que les gens qui sont très cassés par la vie, on pourra plus se permettre de les accueillir parce que quand il faut faire un chantier, voilà, il faut pouvoir avancer un petit peu et avoir des gens qui tiennent debout. Donc le risque, c'est qu'à terme, on ne puisse plus accueillir ces gens-là. Et ces gens-là, comme ils ne pouvaient pas trop travailler d'autres endroits, ils vont rester chez eux à tourner en rond et voilà. Donc c'est un peu ça qui est triste. Et puis d'autre part, effectivement, les petites collectivités, elles n'auront pas forcément les moyens de faire appel à nous, ou alors au lieu de nous prendre une semaine, nous prendront que deux jours. Et du coup, l'entretien de l'espace naturel, l'entretien des chemins, etc., il va se faire beaucoup moins. Donc voilà, les gens qui se promènent dans les forêts, ils se rendront compte que c'est moins bien entretenu, quoi. Voilà le risque qui peut y avoir. La phase du redressement judiciaire, c'est que du coup on est passé à une phase de... Il y a un appel à reprise de l'activité, c'est-à-dire que l'administrateur judiciaire a jugé que c'était pas tenable de continuer comme ça parce que les financeurs n'ont pas voulu donner de rallonge sur l'année 2018. Et du coup, il y a une offre de cession de l'association qui est valable jusqu'au... Enfin, il faut que les repreneurs se manifestent avant le 29 octobre. Et voilà, mais du coup, en même temps, l'administrateur judiciaire qui a été nommé du fait que les comptes sont vraiment dans le rouge, va procéder à un plan de licenciement de voilà, entre 20 et 30 personnes sur les salariés permanents, sachant que on est 72 salariés permanents et il y a plus de 200 personnes en insertion.
Est-ce que vous savez un peu les échéances de ce plan de licenciement ?
Ben donc il y a l'échéance dont je parlais sur les offres de reprise, et après il y a un nouveau jugement, donc le 27 novembre, qui va soit acter, s'il n'y a pas de repreneur, ben, ça sera probablement la fin de l'activité. S'il y a un repreneur, ça sera sûrement à ce moment-là qu'il y aura la cession. Et s'il y a plusieurs repreneurs qui se manifestent, et ben, ça sera un peu pour comparer les offres qu'il va y avoir. Voilà. Pour l'instant, il y a plusieurs... la semaine dernière, on a rencontré un repreneur qui s'est manifesté. Et puis là, apparemment, il y en a un deuxième qui pose des questions aussi un petit peu, mais après on ne sait pas trop dans quelles conditions ils vont nous reprendre et si on va pouvoir continuer à travailler avec les mêmes publics et sur le même type de chantier, sur la même qualité de chantier aussi, parce qu'on avait beau prendre des publics très très cassés par la vie, ben on faisait des chantiers qui étaient reconnus comme de qualité et puis du coup qui étaient très valorisants pour ces personnes-là qui sortaient un petit peu de leur quotidien morose et qui faisaient des belles choses. C'est toujours vachement étayant dans la vie de réaliser des choses qui sont valorisées par le public qu'on rencontre sur les chemins, etc.
J'ai entendu dire qu'on vous appelait les Brigades Vertes. Est-ce qu'il y a du coup une mobilisation ou un moyen de soutenir cette association Rhône Insertion Environnement et les Brigades Vertes pour que ces projets perdurent ?
Alors, c'est pas le grand public qui va nous soutenir directement. Après, vous pouvez écrire à votre conseiller général, votre député, etc., pour leur dire, ben voilà, il y a une association qui est dans le rouge et nous, on pense que c'est important de la soutenir parce que voilà, son rôle est important. Pour l'instant, on n'a pas prévu d'autres mobilisations. Donc, c'était mardi la mobilisation devant le tribunal. On a fait une manif qui a rassemblé une grosse partie du personnel. Pour l'instant, c'est pas encore ce qu'on va faire par la suite, mais s'il y a des personnes qui veulent plus d'infos après pour regarder le fil, éventuellement on pourrait nous contacter pour savoir où on en est. Voilà.
Merci. On peut trouver votre contact sur internet du coup?
Pas forcément. Alors moi, je peux donner mon numéro de téléphone si y a des gens qui veulent me contacter. Donc c'est Benjamin 06 85 34 06 78.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter ?
Non, bah merci de m'avoir invité.
Bah merci, et du coup on espère pouvoir continuer à croiser les Brigades Vertes au bord des chemins.
Et on va passer à la rubrique nationale avec directement un reportage sur une autre lutte, celle pour le train.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Là, on est où exactement ?
Là, on est au siège de SNCF Réseau, donc direction régionale, quoi. Hein. Et donc, l'utilité d'être ici, c'est par rapport à ce que prévoit ou ne prévoit pas la direction SNCF vis-à-vis du maintien de la ligne des Alpes, quoi, de Grenoble-Leuven. Et donc, apparemment, il y aurait des responsables qui auraient une parole importante sur la suite du dossier qui se trouverait ici. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de venir leur parler.
Et là, actuellement, on bloque l'entrée, donc le SAS des bâtiments.
Voilà, on bloque pas, hein, le passage est libre, mais en tout cas, en attendant de voir quelqu'un, on est ici. Ouais.
Vous ne connaissez pas, hein ? Vous savez pas où il est ?
Je connais pas, désolé.
On n'a pas de chance, personne ne le connaît.
C'est quoi le tract ?
Alors, on recherche Thomas Aléry, qui est directeur territorial de SNCF Réseau à Lyon. Il mesure 1m65, châtain foncé, et on veut lui lire cette lettre.
Depuis plusieurs années, vous maintenez un ralentissement sur une portion de plus de 3 km de voie entre Clèles et Luz-la-Croix-Haute. Cette zone a pourtant été refaite à neuf en 2014 et 2015. d'après les informations communiquées par différents cheminots. Vous n'avez jamais démenti cette situation, mais vous ne l'avez pas modifiée. Vous prévoyez un nouveau rallongement de parcours de 5 minutes, rien de moins, à compter du mois de décembre 2018, toujours entre les gares de Clèles et de Luz-la-Croix-Haute. C'est absurde. Les techniciens en charge de réaliser ces grilles horaires affirment que c'est l'Infrapol, c'est-à-dire le service en charge de la voie, qui a prévu un ralentissement. Mais ce dernier a assuré au collectif qu'il n'en est rien. Et ce n'est pas tout. Depuis plusieurs mois, vous avez aussi décidé de fermer un croisement en gare, encore et toujours à Luz-la-Croix-Haute. Cette fermeture rend la gestion des circulations encore plus complexe et cause des retards. Du coup, les grilles horaires prévoient des temps de parcours plus longs pour, entre guillemets, fluidifier le trafic. Ainsi, les trains ne circulent plus avec des retards ponctuels, mais avec des ralentissements permanents. Au final, certains trains ne peuvent plus se croiser et certains doivent être supprimés.
C'est l'enjeu de toutes les petites lignes au niveau national, c'est-à-dire toutes les lignes qui sont classifiées de 8C de 7 à 9 sont un peu sur la sellette. Donc ce sont les parties prenantes telles que la région, l'État, la SNCF Réseau, qui sont à même de dire on veut garder ou pas. Et donc pour nous, effectivement, si d'ici 2021, il n'y a pas un avant-projet qui est lancé sur les projets à mener, on va avoir une fermeture de la ligne, ce qui nous paraît inacceptable. Parce que nous, on considère qu'il y a un énorme potentiel. Donc il y a tous les chiffres de fréquentation qui sont à revoir. Pour nous, il est clair qu'on a plus de 1000 passagers par jour qui font le trajet. C'est un territoire entre Grenoble et Gap qui est en plein essor. Donc il y a un énorme potentiel. Donc voilà, on peut pas laisser la fermeture. Je pense que les gens n'imaginent pas du tout ce que ça peut représenter pour des personnes âgées, pour les jeunes aussi. Alors je prendrai l'exemple des personnes âgées qui ont des conjoints malades qui vont soit à Gap, soit à Grenoble, et qui ont besoin du train avec un confort qui est tout autre par rapport au bus pour pouvoir aller voir leurs conjoints. Ensuite, on a tous les jeunes lycéens aussi, ou étudiants, qui ont besoin de plus de sécurité. Puis après, il y a tout ce qui est trafic pendant l'hiver. On est dans des régions montagneuses où les risques sont extrêmement importants avec la neige. Donc on assure avec le train une mobilité pérenne tout au long de l'année. Donc l'impératif est bien la ligne Grenoble-Gap, mais après on se bat pour l'ensemble des territoires et que les territoires ruraux continuent à vivre pleinement et pas juste avec de la mobilité via les routes. Quoi. C'est ce qui est envisageable, et avec les cars.
Et là vous êtes une vingtaine d'usagers et d'usagères à être venus jusqu'ici.
Oui, c'est héroïque. Mais... un lundi matin, vous vous rendez compte? Moi j'ai du boulot ça, aujourd'hui. Hein. On veut vraiment défendre cette ligne, donc on a fait l'effort.
Est-ce que ça vous fait 3 heures de route, plus ou moins?
Bah ça fait au total, ça va faire 5h30 de train dans la journée. C'est vraiment une particularité de cette lutte, c'est que c'est usagers et cheminots. On défend ensemble le train. Et ça, c'est exceptionnel. C'est très rare d'avoir des luttes comme ça où on a à la fois des cheminots, des usagers. On fait ça depuis 2014 et ça, c'est vraiment formidable.
Le train à nous de vous faire préférer.
Bon, de toute façon, on réserve le billet de train pour lundi prochain, comme ça, si on n'a pas de réponse, on revient, puis si on en a une, on a mieux les billets, en fait.
Et alors, on ne l'entend pas dans le reportage, mais ils ont bien fini par voir quelqu'un du réseau SNCF. Alors, c'était pas le fameux Thomas Allary, le grand chef, mais Jean-Paul Bournazel, le chargé de com, qui leur a assuré qu'il leur donnerait une réponse factuelle avant la fin de la semaine. Et on est vendredi, et ils n'ont rien reçu. Alors, du coup, on imagine que les... Triévois et Triévoises vont revenir sur Lyon pour continuer à défendre leur ligne. Et si vous voulez des infos, vous pouvez en trouver sur le net sur étoiledevennes.info.
Et de la vallée du Trièves, on descend vers le sud et Marseille. Marseille où samedi 29 septembre avait lieu sur la Plaine, un quartier du centre-ville, le dernier marché de ce quartier justement. Colère et tristesse pour les 300 forains qui y sont installés depuis des décennies. Colère et tristesse aussi pour les milliers de personnes qui fréquentent ce marché 3 fois par semaine. Et face aux habitantes et habitants attachés à ce souk populaire qui se tient sur la plus grande place de Marseille, la volonté de la mairie et des élites de la ville est de nettoyer ce commerce jugé honteux et donner la ville aux touristes et aux nouveaux habitants du quartier, beaucoup plus friqués. Alors à la manœuvre, le vieux maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et l'une de ses lieutenants, Marie-Louise Lota, élu chargé des marchés à Marseille, justement, et qui s'adresse aux vendeurs de ce même marché en ces termes. Vous vendez trop du bas de gamme. Ce qu'elle formule de la façon suivante en off, on vend beaucoup de merde sur ce marché. Alors, c'est pas complètement faux à partir du moment où l'on accepte aussi de dire que ce qui se vend sur le marché de la Plaine se vend aussi dans les rayons des hypermarchés, Carrefour, Auchan, j'en passe, souvent plus cher d'ailleurs, et à qui on ne reproche jamais de vendre des marchandises et des aliments venus de l'autre bout du monde et de piètre qualité. La même élue d'ajouter en s'adressant aux vendeurs du marché, on compte sur vous hein, pour le futur marché, et ce qu'on ne veut plus c'est des barbus. Ambiance. Face à cette offensive de la mairie, les vendeurs et vendeuses des représentants et représentantes de leur syndicat, des riveraines et des membres de l'Assemblée de la Plaine se sont groupés. Petite victoire au départ, puisque lors du conseil municipal du lundi 1er octobre 2018, donc il n'y a pas longtemps, la municipalité a annoncé que les forains pourront encore vendre pendant une semaine et qu'ensuite une quarantaine d'entre eux, sur les 300, hein, pourront rester. Petite victoire seulement, car ce que voulaient ces forains groupés, c'était justement rester ensemble, là où ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Et puis hier, nouvelle offensive de la mairie, offensive cette fois-ci tout pec sorti, puisque des camions ont apporté des gros blocs de béton et ces camions étaient accompagnés de dizaines et de dizaines de CRS et de la BAC qui se sont donc acheminés vers la place de la Plaine. Alertés, 400 opposants et opposantes se sont tenus pendant plusieurs heures sur la place qui a évidemment été noyée dans les gaz lacrymogènes. La police est repartie autour de 18h alors que les blocs qui étaient censés empêcher l'installation du marché avaient été déposés dans l'après-midi. 5 personnes ont été arrêtées hier soir et mises en garde à vue au commissariat de Noailles à côté. Et puis, quand les flics sont partis, une demi-heure après, les manifestantes et manifestants qui étaient restés ont commencé à déplacer les blocs de béton et, en gros, le soir, le parking de la Plaine, enfin la place, était à nouveau accessible et réouverte pour les vendeuses et vendeurs. Et puis aujourd'hui, matin, aux alentours de 6h, de nombreux flics ont à nouveau convergé sur la Plaine pour continuer ce que la mairie appelle leur mission de sécurisation. Et donc l'installation de nouveaux gros blocs de béton a repris sur l'ensemble du pourtour de la Plaine, entreprise largement défendue donc par le déploiement policier. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Plus de news sur ces questions sur le site Marseille Info Autonome, MIA, et des écrits un peu de fond hein, sur cette question dans le dernier très bon CQFD.
Et on va parler don du sang. Alors jeudi, les députés ont voté contre un amendement qui visait à ouvrir de façon non discriminante le don du sang pour les homosexuels. Et à cet amendement, il a été déposé dans le cadre d'une commission de consolidation du système de modèle du don de sang français. Alors pour rappel, c'est seulement depuis juillet 2016 que les hommes homosexuels peuvent théoriquement donner leur sang, ce qui leur était interdit depuis 1983 pour les raisons qui ont été mises en avant, c'était les risques de transmission du sida. Mais cette possibilité, elle est soumise à des conditions qui ont été fixées par un arrêté. Et une de ces conditions, c'est notamment l'abstinence d'un an qui doit être déclarée donc, pendant l'entretien avant de donner son sang. Alors, ce qui limite fortement le nombre de personnes qui peuvent prétendre au don du sang. Et donc, ça crée une discrimination en fait, entre les donneurs et les donneuses, puisque les hétérosexuels, eux, doivent seulement déclarer 4 mois d'absence de relation avec plusieurs partenaires. Alors cet amendement, il devait permettre d'aligner les conditions de don du sang des homosexuels sur celles des hétéros, ce qui du coup ne faisait plus de distinction entre les personnes sur leur orientation sexuelle, mais seulement sur la prise en compte sur les situations à risque, donc selon la définition de l'établissement du sang français. Mais cet amendement, il a été rejeté par 29 voix contre 23. Et donc ce qui n'est pas très compréhensible sur l'allongement du cette différence de traitement, c'est qu'en fait, toutes les poches de sang sont testées pour le VIH et d'autres maladies comme l'hépatite A. Et il existe une fenêtre sérologique où l'infection existe mais qui n'est pas encore détectable. Et dans le cas du VIH, cette fenêtre, elle est seulement de 12 jours. Du coup, c'est un peu incompréhensible ce délai d'abstinence porté à 12 mois uniquement pour les hommes homosexuels, à part des préjugés homophobes. Mais l'égalité de traitement, en tout cas, n'est pas encore pour aujourd'hui.
Et elle n'est pas aujourd'hui un peu nulle part, puisque en fait, tout ça, ça nous a amené aussi à réfléchir à où en est un peu le débat sur la PMA pour les femmes lesbiennes. Et on s'est rendu compte que là aussi, le bas blesse. Pour rappel, mi-septembre, on vous parlait dans Scania Info des lobbies lesbophobes et anti-IVG qui se réunissaient à Perrache pour présenter une nouvelle offensive contre l'ouverture de la PMA, du coup de la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes. Et encore pour rappel, en juin dernier, le Comité consultatif national d'éthique a rendu son rapport sur les états généraux de la bioéthique. La plupart des contributions ont porté sur la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et plus seulement à celles en couple hétérosexuel et ou stérile. Et donc ce Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis favorable, faisant suite à une promesse du candidat Macron qui se disait favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et les couples de femmes. Mais maintenant que l'avis a été rendu, le président Macron est étonnamment muet. En juillet dernier, après un gros cafouillage au sein de la majorité LREM, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé qu'un projet de loi sur la bioéthique serait présenté avant la fin de l'année et débattu au Parlement en 2019. Il devrait aborder la question de la PMA pour toutes les femmes. Et donc des organisations comme Manif pour tous et autres opposants à la PMA se préparent à affronter le gouvernement. Il semble de moins en moins gagner du terrain médiatique comme auprès du gouvernement. Annonce passée inaperçue, le Conseil d'État, dans une décision rendue publique le mardi 3 octobre, estime que refuser d'accorder une procréation médicalement assistée à deux lesbiennes n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi. Ah bon ? Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative, affirme donc que la différence de traitement entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe n'est pas contraire au principe d'égalité. Toujours pour ces mêmes juges, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Il y a vraiment marqué intérêt général. C'est donc le principe vraiment même d'égalité devant la loi qui est remis en cause par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a aussi pris la décision de ne pas transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Le temps où la PMA pour toutes semblait proche semble s'éloigner de jour en jour. Face à ces offensives contre le droit pour toutes de procréer et l'omniprésence dans les médias de discours anti-PMA au relent homophobe, 90 femmes qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger ont signé une tribune hier, jeudi 11 octobre, sur le site France Info pour dénoncer leur absence dans les médias, dans les émissions consacrées à la procréation médicalement assistée. Alors que le pape en est encore à comparer le recours à l'IVG à un recours à un tueur à gages, il est plus que jamais primordial de se mobiliser pour le respect et les droits de toutes et tous, quelle que soit sa sexualité.
Et du coup, suite à ça, on vous passe un petit extrait d'un son pour faire une petite annonce d'une soirée de ce week-end.
Mais qu'est-ce qu'on attend ? Plongé dans l'illusion, un virus, un ouragan pour lancer la révolution. Je veux pas élever mes enfants ancrés dans la consommation. La société s'est perdue dans la mondialisation. L'homme virus en vertu prône l'autodestruction. Résultat, la terre est foutue au bord de l'explosion. Regarde le TAFTA, le SIDA, le pétrole, DSK, les médias, le système de l'école. Vois le trafic d'organes, le gluten et les drogues. La fin Fukushima, Israël et les viols. La jungle de Calais, la politique de l'Europe. Les coups de balai, Tchernobyl. Les périscopes, les pingres de palais, la production d'escalopes, le massacre des palais, l'ADN au microscope. Toi qui écoutes, sois pensif pour éviter la camisole. Éveille-toi, sors tes griffes, leur jeu est plus malsain que drôle. Mais je vous demande, où va le monde? Où va le monde? Mais je vous demande, où va le monde? Où va le monde? Et je vous demande, où va le monde? Où va le monde? Et je vous demande, et je vous demande. Comment on a pu laisser faire Lucifer? C'est bien installé, nous a tous marqués au fer de son trône. En train de se marrer, pourtant c'était bien notre.
Micro. On vous passait ce son en l'annonce d'une soirée hip-hop féminin pour samedi soir, on va revenir dessus. Tout de suite on passe à la rubrique nationale et à l'expulsion d'un squat.
Oui, c'était l'expulsion d'un squat et c'est presque même une rubrique internationale puisque ce squat était du côté italien, à la frontière franco-italienne et il s'appelait Chez Jésus. Parce que c'est une petite blague, il était situé juste à proximité d'une église et c'était un lieu un peu de circulation sur la route migratoire entre l'Italie et la France. On revient à travers un reportage d'une petite dizaine de minutes qui a été diffusée sur Radio Canu dans l'émission Le Chant des Meutes. On revient donc sur ce squat et plus globalement les problématiques migratoires à la frontière franco-italienne.
On est à Clavière, on est du coup côté italien, on est à peu près à 2 km du poste frontière, donc la PAF, la police aux frontières. On est du coup sur une zone de piste de ski. En été et en hiver, il y a beaucoup de touristes. Et parallèlement, on est sur une zone de passage d'énormément de personnes, je ne saurais pas dénombrer combien, mais parfois... plusieurs centaines par semaine qui traversent ces pistes de ski pour rentrer en France de manière irrégulière, comme dit le gouvernement, et souvent traqués par la police dans les bois la nuit, puisque donc il y a le poste frontière qui a passé, quoi, qui est sur la route. Les marcheurs et les marcheuses passent devant. Mais la frontière, plus généralement, est militarisée depuis une année, depuis septembre 2017. C'est pas un col hyper haut comparé à d'autres zones au-dessus et en dessous. C'est 1800 mètres d'altitude à peu près au plus haut point, je dirais, entre Montgenèvre et le col de l'Échelle. Il y a deux passages. Ça se raconte, ce passage de frontière, pour se donner les plans et tout et tout. Cet hiver, il y avait... Donc chez Jésus a ouvert le 22 mars 2018. Et l'hiver, c'était beaucoup par le col de l'Échelle que le passage se faisait. Il y avait énormément de neige. Et côté Échelle, il n'y a pas de poste de douane, mais il y avait des points de contrôle fixes autorisés et mobiles. Des points de contrôle fixes et mobiles autorisés par les accords. Enfin, c'est l'espace Schengen en fait qui autorise ou pas des points de contrôle fixes et mobiles. Et en gros, le col de l'Échelle jusqu'à Briançon, c'est 40 km. Voilà. Et donc du coup, en mars, il y a eu ce sous-sol d'église qui a été occupé. Parce qu'à Clavière, c'est beaucoup moins long. La route, c'est 20 km de Briançon à peu près. C'est même un peu moins quand on se perd pas et quand on a les bons papiers et quand on n'est pas traqué par la police. Sinon, ça peut être beaucoup plus long quand on se perd. Ça se passe très mal avec le curé qui dénonce en permanence ce qui se passe, qui dénonce certainement le nombre de personnes qui sortent des bus et le nombre de personnes qui partent, puisque lui, il habite juste au-dessus et qu'il est en permanence là... On dirait un personnage de BD des vieux fourneaux, le curé qui parle en italien et qui est tout le temps en train d'insulter tout le monde. Parce qu'il y a un constat, c'est que la montagne, un constat fait depuis longtemps, c'est que la montagne, elle est dangereuse, cette montagne. Et moi, j'ai entendu dans la bouche de certaines personnes qui ont passé cette frontière, c'était pire que de passer la frontière du Sahara. On est à Briançon, on est sur une zone montagneuse super dangereuse, il y a des gros cols, il y a des crêtes, il y a le torrent, il y a une femme qui est morte noyée dans ce torrent. Et donc chez Jésus, ce que ça a changé, c'est surtout que ça a permis de faire un point refuge de prévention montagne, pour proposer aux gens de se vêtir, d'avoir des bonnes chaussures, de ne pas partir trop chargé, d'expliquer qu'en fait la montagne, la nuit, quels sont les dangers. Il y a des ravins, il y a de l'eau qui coule au moment de la fonte des neiges, il y a Matthew Blessing, une Nigériane qui est tombée dans l'eau parce qu'elle s'est fait prendre en embuscade par les flics et elle est morte, elle a été retrouvée au barrage en bas à Briançon. Et donc du coup, ce que ça change, c'est surtout de ce point de vue là d'éviter qu'il y ait des gens qui se fracassent trop, parce qu'en fait il y en a déjà beaucoup qui se fracassent. On parle des morts, mais il y a des traumas psychologiques et des traumas physiques qui sont impressionnants. Une entorse au genou mal soignée, c'est souvent ce qui se passe. Arrivé en France, c'est pas fini, hein. Il y a plein de frontières qui sont encore existantes, mais du coup une entorse au genou mal soignée, ben, c'est toute ta vie que tu le gardes, quoi. De la même manière que quand tu te fais prendre en embuscade par des flics qui te tabassent et qui te menacent armes au point de te tirer dessus alors que t'es sans défense, il y a un moment où ce traumatisme là il est inexplicable. Et l'avantage de chez Jésus, c'est que justement ça recrée un pôle qui n'est pas un pôle humanitaire, qui n'est pas un pôle d'aide à proprement parler. L'idée, c'est de laisser de l'autonomie aux gens et qu'en fait juste ils puissent se sentir plus maître et maîtresse de ce qui va se passer pendant la route. Parce que ces dangers-là, on ne pourra jamais traverser la frontière à la place des gens. On aimerait bien, des fois, quand on voit des enfants de 1 an avec leur mère surchargée, leur dire, bah ouais, en fait, là, bien sûr que c'est normal que tu ailles te reposer, te laver, manger quelque chose côté français, puisque c'est là-bas où c'est le plus simple pour toi de vivre. Mais c'est pas vrai, en fait, ça n'existe pas, ça. Donc c'est une forme de lieu qui favorise cette autonomie-là, quoi, tout en faisant de la prévention. Cet été, ça a été infernal. Ça a été une violence au niveau de la répression a été extrêmement violente. Les flics qui restaient un peu calmes et campés dans leur position, on se sont mis à vraiment avoir des gestes très violents et brusques et à racketter les exilés et à aussi mettre beaucoup la pression sur les personnes solidaires. On a entendu parler des trois de Briançon qui se sont fait interpeller le 22 avril suite à la marche contre la présence des identitaires dans les montagnes. Il y a des personnes qui sont parties en tôle. C'est la première fois que ça arrivait en France, alors que les identitaires, on les laisse tranquilles dans leur coin. Les flics leur serrent même la main dans l'école et ils arrêtent les exilés alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Donc je pense que c'est aussi en réaction avec le fait qu'il n'y a aucun droit pour les gens qui n'ont pas les bons papiers. Il n'y a aucun droit pour les gens qui ont les bons papiers et qui sont solidaires en fait de ces personnes-là. Il faut que les gens prennent conscience que la frontière, elle tue. La PAF, les militaires et les gendarmes, même si ça tourne, je pense qu'il y en a, ils commencent à en avoir marre, quoi. Et puis peut-être ils se rendent compte aussi qu'il y a des moments où c'est aberrant ce qui se passe. Ça, c'est ce que j'aimerais me dire, mais en fait, je pense, en le disant, que les flics sont quand même pas mal racistes. Parfois, ils prennent en embuscade les marcheurs, ils les attrapent. Le processus qui se passe, c'est qu'ils les emmènent à la police aux frontières et ils les interrogent. Et ensuite, ils leur disent, l'Italie, c'est par là. Et donc, tu retournes en Italie. Donc, en gros, il y a 2 kilomètres à faire pour revenir chez Jésus. Ce qui est aussi crucial d'avoir ce lieu-là, c'est que quand tu t'es fait un peu tabasser, violenter par la police, tu t'es fait potentiellement piquer tes thunes et que tu ressors de là, t'es bien traumatisé, c'est que t'as 2 kilomètres à faire pour manger, dormir chez Jésus. Du coup, menacé d'expulsion. Ça fait depuis mi-juillet qu'il y a une menace d'expulsion qui plane. Et c'est imminent. C'est possible que ça se fasse dans les jours à venir. Donc c'est une vraie manière de casser les solidarités. Un autre truc à dire aussi, c'est que pour casser les solidarités, ils sont en train d'essayer de démanteler une bande organisée d'aide au passage et qu'il y a déjà 3 personnes qui ont été jugées et qui ont fait 10 jours de préventive. Il y a également 4 personnes qui ont été en garde à vue, audition, qui ont été convoquées en garde à vue en juillet et que ces 7 personnes-là sont convoquées le 8 novembre au tribunal de Gap pour aide au passage en bande organisée.
Et mercredi 10 octobre, comme on l'a dit avant de diffuser ce reportage, à 8h, la police italienne a expulsé le refuge autogéré chez Jésus, dont il était question donc dans ce documentaire. Une dizaine de personnes qui étaient dans le squat ont été expulsées et parmi eux, 4 exilés qui a priori ont été renvoyés à Turin. Voilà, face à cette attaque contre un lieu qui ouvrait une brèche dans cette frontière militarisée et qui apportait du soutien à celles et ceux qui sont traqués par la police et les fachos, il ne faut donc pas rester silencieux. On vous annoncera prochainement les rendez-vous qui se proposeront de renforcer les solidarités face aux politiques migratoires scélérates. Rendez-vous qui permettront sans doute aussi de s'organiser pour tisser des réseaux de solidarité loin des politiques des États et des relais associatifs, qui bien souvent et trop souvent fonctionnent dans une optique uniquement humanitaire et tragiquement gestionnaire. Et puis il y a un rendez-vous dont il était question dans ce documentaire qui est d'ores et déjà fixé, c'est le jeudi 8 novembre 2018 à Gap devant le tribunal où aura lieu le procès de 7 militants et militantes, 4 Françaises, 2 Suisses et 1 Italienne, procès puisqu'ils ont aidé au passage de la frontière. Elles et eux risquent 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Voilà.
Et du coup, la frontière tue, certes, entre la France et l'Italie, mais elle tue aussi au large du Maroc, parce que ce mercredi, la marine royale marocaine a de nouveau tiré sur des migrants et migrantes, et une personne a été blessée lors de cette opération, et du coup, les 57 autres personnes ont été remises à la gendarmerie. Et donc ça, c'est la seconde fois en 15 jours que la marine marocaine ouvre le feu sur des personnes qui tentent de traverser la Méditerranée à cet endroit-là, et du coup, il y a 15 jours, c'est une jeune marocaine qui est décédée lors de ce passage en fait. Et donc pourquoi la marine marocaine tire ? Et ben elle justifie que en fait elle évoque en fait des manœuvres hostiles du navire qui essaie de passer. Donc c'est-à-dire qu'en fait que du coup le navire voit arriver le navire de la marine royale et du coup essaye de se barrer et du coup ça c'est une manœuvre hostile. Et en plus ce qui est pas cool du tout selon la marine nationale c'est que les migrants et migrantes sont dissimulés sous des bâches. Du coup bah pas con ils se cachent parce que sinon ils sont tirés dessus. Et du coup bah faut savoir en plus que cette route migratoire entre le Maroc et l'Espagne est hyper fréquentée. Donc selon l'Organisation internationale pour les migrations, il y a plus de 43 000 migrants qui sont arrivés en Espagne depuis janvier 2018 et que c'est notamment soit des Marocains ou des Marocaines qui essaient de quitter leur pays, mais aussi en fait énormément de personnes qui passent par le Maroc pour aller jusqu'en Afrique subsaharienne. Mais en France aussi, les migrants et les migrantes n'ont pas le droit à un traitement complètement humain, et notamment à Mayotte.
Et oui, à Mayotte, parce que la préfecture est fermée depuis 6 mois, et plus exactement le service pour les étrangers. Et alors ce service devait rouvrir partiellement ses portes jeudi 11 octobre, sauf qu'à l'annonce d'une manifestation des collectifs citoyens xénophobes, et ben ça a suffi à différer cette ouverture une énième fois. Alors finalement, à cette manifestation, ils étaient seulement une cinquantaine, mais l'impact du coup a été énorme puisque des milliers de personnes continuent à être condamnées à la précarité administrative et sociale en toute illégalité. Et elles ne sont pas prêtes à voir la sortie de cette situation puisque le préfet lui-même précise que la réouverture totale n'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors la préfecture, elle est fermée. Mais en représailles à la décision souveraine donc de l'Union des Comores de ne plus recevoir des personnes exilées. Parce que donc, les Mayotte et les Comores sont juste à côté, il y a beaucoup de passages entre les deux. Enfin, des gens qui circulent entre les deux. Et donc à l'ambassade de France à Moroni, aux Comores, les Comoriens et les Comoriennes qui souhaitent demander un visa pour la France trouvent porte close. Mais les autres ressortissants et ressortissantes, et eux, peuvent toujours demander des visas à l'ambassade de France. Donc depuis peu, les demandes de visa des étudiants et des étudiantes sont examinées, mais la plupart se soldent par des refus. Alors à Mayotte, ce sont du coup des milliers de personnes qui font les frais du bras de fer diplomatique entre la France et les Comores. Pourtant, c'est pas la première fois qu'un État fait part à la France de son refus de réadmettre sur son sol des expulsés. Il y a 10 ans, le Mali avait durablement cessé de délivrer tout laissez-passer consulaire suite à la mobilisation de sa société civile. Et jamais la France n'a en retour choisi d'interdire illégalement l'accès des Maliens et des Maliennes aux préfectures, ni de fermer son ambassade à Bamako. Mais puisque ça se passe à Mayotte, eh ben, la France se permet certains passe-droits. Les conséquences, elles sont dramatiques pour les étrangers et les étrangères à Mayotte, parce que les personnes, elles sont privées de leurs droits. Alors les personnes qui étaient en situation irrégulière, elles perdent leur droit au séjour et par conséquent leur droit, la possibilité de travailler, et donc elles perdent leur emploi, faute de pouvoir renouveler leur titre de séjour. Les jeunes bacheliers qui avaient vu leur dossier accepté dans des universités en métropole n'ont pas pu quitter l'île. Et les parents d'enfants malades voient leur droit à l'assurance maladie interrompu puisqu'ils deviennent eux aussi en situation irrégulière. Les demandes d'asile sont aussi stoppées et personne n'a accès à ce service. Alors il y a des personnes qui ont essayé de saisir le juge et pour autant, ça n'a pas résolu les difficultés parce que les décisions de justice, même si elles ont bien prouvé que la préfecture n'était pas dans son bon droit, la préfecture s'en fiche royalement. Alors la persistance de cette situation, elle menace non seulement le droit des étrangers et des étrangères, mais aussi le bon fonctionnement des services publics maorais, parce qu'en fait ça empêche aussi le recrutement de renouvellement des contrats du personnel étranger dans les écoles, les collèges, les lycées, les hôpitaux.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Oui, voilà. Et donc du coup, comme vous avez entendu sur le jingle, on va vous parler de gaz de schiste pour le début de cette rubrique internationale, puisqu'on va aller en Angleterre et que pour la première fois depuis 1932, figurez-vous, 3 militants ont été mis sous les verrous suite à une manifestation contre l'exploitation d'hydrocarbures par fracturation hydraulique. Et alors, donc ces trois personnes, donc il y a trois personnes qui ont été condamnées à 16 mois de prison ferme. Et il y a une quatrième personne qui a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces quatre hommes ont été inculpés après avoir participé à une protestation qui a duré 4 jours pour empêcher un convoi de camions transportant du matériel de forage d'entrer sur le site de fracturation de Preston New Road, près de Blackpool. Donc, en gros, ce qui s'est passé, ils ont squatté les camions. Il y en a un qui a réussi à tenir jusqu'à 76 heures, figurez-vous, donc c'est plutôt pas mal. Il y a eu du soutien, donc il y a des manifestants qui leur ont apporté des couvertures, de la nourriture, de l'eau, etc., etc. Mais bon, finalement, ils se sont fait arrêter et juger, et maintenant, ils sont en tôle. Faut savoir que le site de Preston New Road est un haut lieu de lutte contre l'extraction de gaz de schiste. Donc c'est une concession qui est détenue par la société britannique Quadrilia. C'est une société qui a été créée spécialement en 2007 pour prospecter et exploiter le gaz de schiste là-bas. Elle est la propriété d'une autre compagnie minière australienne et d'un fonds d'investissement new-yorkais. Particulièrement présent évidemment dans le financement d'énergie fossile. En juin 2015, donc ça c'était en 2007, et en juin 2015, le comité de Lancashire, donc là où se déroulent un peu ces faits-là, avait refusé un premier projet de fracturation hydraulique. Donc ils avaient mis, eux, en avant notamment les risques importants de pollution sonore. Et donc la société avait fait appel et obtenu gain de cause en 2016. Et du coup, ben, comme d'hab, le gain de cause est obtenu en vantant le potentiel économique du gaz de schiste et ses promesses d'indépendance énergétique. Et donc, pourquoi autant de sévérité dans ce jugement? Parce que ça fait quand même beaucoup de prison ferme pour avoir squatté un camion. Donc en fait, le tribunal avoue de lui-même quand même qu'il n'a pas condamné les militants pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils sont potentiellement capables de faire, puisqu'ils les ont condamnés pour les risques de récidive. Donc ça, évidemment, ça ne nous surprend pas, mais ils l'ont clairement avoué. Donc voilà. Et donc ils ont dit, ben voilà, on va vous mettre des sévères peines de prison et pour vous dissuader de recommencer. Et donc là, récemment, il y a eu un autre truc qui est tombé, c'est que aussi ces peines, elles sont peut-être dues aussi à autre chose, c'est que le juge qui était dans cette affaire, donc le juge Robert Altham, qui a prononcé la sentence qui était « Seule une détention immédiate peut entraîner une peine suffisante ». Et donc en fait, ce fameux juge, donc ça c'est le Daily Mirror qui révèle un peu cette affaire, révèle que la famille Altham est un fournisseur de l'industrie pétrolière et gazière de la mer d'Irlande. Et ce fournisseur d'industrie pétrolière et gazière est en lien direct avec la fameuse société qui exploite le gaz de schiste. Et d'ailleurs, toute la petite famille, les parents du juge, par exemple, c'est les administrateurs de cette société. La sœur, elle est directrice générale, etc. Et donc, toutes ces belles personnes ont fait un courrier pour le comté de Lancashire et ont exhorté le comté justement à autoriser la fracturation hydraulique et à créer cette fameuse chaîne d'approvisionnement de 33 milliards de livres. Et donc voilà, et ils ont même fondé une espèce de ligue qui s'appelle le Lancashire pour le schiste. Et d'ailleurs, cette ligue a jugé que la décision de justice, donc de toute cette prison ferme, ils avaient estimé que la justice avait été bien servie. Et donc évidemment, en Angleterre, il y a un truc qui existe, qui est un code de conduite, qui dit un truc pas si bête, c'est que l'impartialité des juges peut être mise en doute si des membres de la famille sont politiquement actifs. Et là, c'est complètement le cas. Et du coup, politiquement actifs ou à un intérêt financier en relation avec l'affaire. Donc là, c'est complètement le cas. Et du coup, les avocats vont essayer de jouer là-dessus pour faire annuler les peines. Mais ça, c'est pas encore gagné, je pense. En tout cas, la société pétrolière se laisse pas abattre. elle a déclaré qu'elle allait entamer les prospections de gaz de schiste cette semaine. Il y a eu quand même une injonction qui interdisait les débuts des travaux. Il y a jusqu'à une audience qui s'est tenue ce mercredi, mais j'ai pas d'infos à vous donner sur cette fameuse audience. Juste pour terminer, en fait, il faut savoir que depuis cette lutte dans cette région, il y a quand même plus de 300 manifestants qui ont été arrêtés depuis qu'ils ont commencé à construire cette fameuse plateforme de fracturation, donc en janvier 2017. Voilà, c'était pour faire le point là-dessus.
Et on quitte l'Angleterre, on part en Allemagne où il y a aussi des luttes contre des projets capitalistes un peu extrêmes qui détruisent la planète, qui détruisent notre environnement, qui détruisent nos vies. On part à Hambach, c'est en Allemagne, à l'ouest de Cologne. C'est quoi ? C'est une méga mine de charbon à ciel ouvert. C'était un projet d'extension de cette mine à ciel ouvert qui devait empiéter sur la forêt, sur une forêt primaire. Alors des gens ils s'y sont installés pour lutter contre l'expansion de la mine. Une ZAD contre un projet minier et son monde depuis plusieurs années. Elle est devenue le symbole de la lutte contre le charbon. Sur les 4100 hectares que comptait la forêt primaire, aujourd'hui, il en reste que 200. Et suite à une décision de justice de la compagnie RWE, qui gère cette mine, ils avaient prévu de raser la moitié à partir du 1er octobre. Alors quoi ? Il a fallu évacuer les bois et les ZADIS qui s'y trouvaient. Pendant plusieurs jours, en septembre, les forces de l'ordre, elles ont évacué les personnes installées dans la forêt. Parmi ces jours, le 16 septembre, c'était une intervention toute particulière parce qu'il y avait au moins 9 blessés et 34 interpellés. Et puis le 19 septembre, c'était encore plus particulier parce qu'il y a un militant blogueur qui était installé dans un arbre, qui est tombé et qui est mort. Il s'appelait Stéphane. Ça faisait 7 jours qu'il filmait l'intervention de la police. Des 3500 policiers, des canons à eau, de l'hélicoptère, des chevaux, des armes, etc. Suite à cette chute, l'expulsion elle a été suspendue. Le vendredi 5 octobre, la justice allemande elle a suspendu le déboisement de la forêt en se prononçant en appel et en référé, parce qu'il devait examiner une requête des militants autour de la forêt. Cette lutte, c'est celle contre l'énergie du charbon, qui représente 40% de l'énergie de l'Allemagne depuis que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. C'est aussi une lutte pour la protection d'espèces rares, mais c'est surtout une lutte contre la course à l'énergie, à toujours plus d'énergie liée à l'idéologie de la croissance. Et ces idéologues mortifères, là-bas, ils agitent les mêmes arguments qu'ici. Comme quoi, il faut du temps pour la transition écologique. Comme quoi, le recours au charbon, si on y renonçait, eh bien, ça détruirait des emplois. Et comme quoi aussi, ce serait bien d'interdire les manifestations, parce que c'est la manifestation le problème, comme celle de samedi dernier qui était interdite, parce qu'il y avait 20 000 opposants qui étaient attendus. Mais ce même samedi, ce ne sont pas 20 000 opposants qui sont venus, ce sont 50 000 qui ont manifesté pour la sortie du charbon, la sauvegarde de la forêt. Des nouvelles plateformes ont été construites dans les bois et la ZAD reprenne. Au cri de « Nous allons au charbon, dans 15 jours nous chanterons Ende Gelände », qui est le nom de l'association qui lutte là-bas. Et avec des milliers de personnes, nous bloquerons les infrastructures des exploitants de la mine à ciel ouvert. Des actions sont prévues du 25 au 29 octobre à Hambach. Et vous trouverez plus d'informations, sans mon accent pourri allemand, sur le site d'Ende Gelände. Et si vous n'avez pas réussi à comprendre et à taper comme il faut, on vous met le lien, bien sûr, sur le blog du Canu Info.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Plongé dans l'illusion, un virus, un ouragan. Pour lancer la révolution, je veux pas élever mes enfants ancrés dans la consommation. La société s'est perdue dans la mondialisation. L'homme virus en vertu prône l'autodestruction. Résultat, la terre est foutue au bord de l'explosion. Regarde le SAFTA, le SIDA, le pétrole, DSK, les médias, le système de l'école. Vois le trafic d'organes, le gluten et les drogues. La fin Fukushima, Israël et les viols. La jungle de Calais, la politique de l'Europe. Les coups de balai, Tchernobyl. Les périscopes, les pingres de palais, la production d'escalopes, le massacre des palais, l'ADN au microscope. Toi qui écoutes, sois pensif pour éviter la camisole. Éveille-toi, sors tes griffes, leur jeu est plus malsain que drôle. Mais je vous demande, où va le monde ? Où va le monde ? Mais je vous demande, où va le monde ? Où va le monde ? Et je vous demande, où va le monde ? Où va le monde ? Et je vous demande, Et je vous demande comment on a pu laisser faire. Lucifer s'est bien installé, nous a tous marqués au fer de son trône, en train de se marrer. Pourtant c'était bien notre rôle en tant que personne, en tant qu'humain, de refuser le contrôle, d'assurer nos lendemains. Mais non, l'Occident ferme les yeux, reste figé seul au fond d'un appart tout miteux. Les grands mitonnent, personne cogite, les riches cocottent, la carotte grossit, les petits mijotent, l'État s'étonne.
Et vous êtes
le
toujours à l'écoute, du Canu Info, où on essaie de faire une insert téléphonique avec des personnes qui organisent une soirée de hip-hop féminin. Demain soir, et bien sûr, comme pour toutes les inserts, on galère.
Et
bah, voilà, on peut vous dire que le son que vous écoutez, c'est KLM, comme parlement, qui passera à la soirée demain soir. Que si vous vous ennuyez en nous écoutant parce qu'on traîne avec nos problèmes techniques, vous pouvez... Ah, c'est un petit bruit de téléphone. Vous pouvez aller sur Rebellion pour lire la présentation de cette soirée. Un autre bruit de téléphone, on approche.
Ah,
on entend du monde là. Allô, allô.
Oui, allô.
Ah, bonsoir.
Bonsoir,
chers camarades. Alors, est-ce que tu peux... On a commencé à parler un petit peu de cette soirée organisée demain de rap féminin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus précisément?
Oui, bien sûr. Et bah donc du coup on organise, on a monté un collectif en fait. On est deux femmes et on aime toutes les deux, voilà, la musique hip-hop. Enfin c'est la base. Ce qui nous lie en fait c'est avant tout le hip-hop, le milieu du graffiti aussi, la danse, enfin tout ce qui tous les arts autour du hip-hop. Et en fait on a eu envie de présenter un lieu, enfin d'essayer d'organiser un événement autour de du hip-hop féminin. Pourquoi féminin? Parce que en fait on a le sentiment que les femmes sont pas toujours visibles dans ce milieu-là et qu'il est un petit peu plus difficile pour nous, parce qu'on est donc deux femmes, de faire notre place et notre trou au sein de ces groupes. Voilà, donc on s'est dit que pour cette édition, on voulait faire un événement en mixité, parce que justement, on voulait pas du tout exclure les hommes de cette soirée, mais plus en fait donner la visibilité au maximum à des artistes féminines. Voilà.
Ok.
Et du coup, donc je vais laisser la parole à Dorian qui vous présentera la prog. Moi, ce que j'ai surtout envie de faire par cet événement, c'est accueillir en fait des personnes qui ont envie d'essayer de prendre un micro pour la première fois à l'open mic qui sera le premier le lancement de la soirée. Donc c'est assez tôt dans la soirée, c'est de 19h à 20h, 21h, mais c'est ça en fait. Enfin, pour nous, le hip-hop et le rap, surtout, c'est aussi pouvoir prendre le micro et prendre la parole. Et donc, voilà, je le redis encore une fois, comme on a le sentiment que c'est parfois un petit peu dur quand on est une femme de prendre la parole, on a envie de mettre en valeur ça. Donc, n'hésitez pas à venir assez tôt à cette soirée. Et puis il y a des frites qui sont servies par les gens qui nous accueillent, donc donc il y a la possibilité de manger sur place et de passer un apéro sympa. Voilà, donc je laisse la parole à Dorian pour
la programmation. Pour la prog, hein. Ok, merci.
À bientôt et merci Radio Canu.
Alors la programmation, qu'est-ce que ce sera? Bonsoir Dorian. Quelle sera cette programmation donc demain soir à côté du métro gratte-ciel?
Tout à fait. Alors, on va commencer, comme l'a dit Delphine, avec un open mic. On espère, et les filles, venez nombreuses, venez prendre le mic, déchaînez-vous, montrez-leur, montrez-nous. Voilà, et puis même, venez vous amuser. Donc, on commence par un open mic. Après, on accueille Prisha, qui est championne, vice-championne de France de beatbox 2017. Donc, il va nous faire une petite session en beatbox. On enchaînera ensuite avec une rappeuse lyonnaise que je pense que pas mal d'entre vous connaissent, KLM. Donc voilà, petit concert de KLM et ses acolytes. Et enfin, on a une autre MC, c'est Qu'est-ce qu'elle dit la madame.
C'est ce qu'on est en train d'écouter en même temps que tu parles.
Pardon ?
C'est ce qu'on est en train d'écouter en même temps que tu parles, je crois, c'est ça ?
Ah, super ! Et ben voilà, exactement.
donc à ce qu'elle dit. Et ensuite, on enchaîne avec deux DJs.